Dialogue entre Congolais présenté par Kéline Kounté.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Résurgence de l'insécurité à l'est de la RDC causée par les groupes armés étrangers LRA, FDLR et ADF Nalu au moment où les opérations militaires sont en cours. Le dernier cas est celui de la découverte des 11 corps sans vie dans le territoire de Béni au nord Kivu. Comment expliquer cette situation et que faut-il faire pour y remédier? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 14 février 2011. Participe au débat Mohamed Boulay, député national de l'opposition, rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale et générale à la retraite. Il est élu du territoire de Bouta en province orientale. Il est avec moi dans ce studio. Mohamed Boulay, bonsoir. Ernest Chiaviro, il est député national de la majorité, membre de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est élu du territoire de Béni au nord Kivu. Il est en ligne. Honorable Chiaviro, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Bob Kabamba, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et analyste politique. Il est en ligne. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Oui, bonsoir, madame.
Vos réactions, nous les avons déjà. C'est le cas de Jules de Kinshasa. Je pense que la résurgence de ces groupes armés à l'est de la RDC est la résultante du mauvais traitement de cette question par le gouvernement de la RDC qui met moins de moyens pour rendre efficaces les opérations militaires à l'est de la RDC. Maître déclare qu'un coulou de l'Ikati au Katanga, j'estime pour ma part qu'il doit y avoir des intérêts des politiciens congolais qui cherchent à se protéger en inspirant la peur aux souverains primaires, car il n'y a pas longtemps que le gouvernement central nous a fait voir qu'il n'y a qu'un seul territoire qui connaît l'insécurité. Merci de nous suivre à Béni au Nord, qui vaut sur la 92.0 et à travers le monde sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Si vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Plus de sécurité, c'est ce que demande la coordination de la société civile du territoire de Béni au Nord Kivu. Elle voudrait que les zones qui ont été ciblées par les phases précédentes des opérations Rwenzori soient davantage sécurisées, car la menace des ADF Nalu reste réelle. Elle le dit dans son communiqué de presse rendu public ce matin depuis Otaka, lieu du territoire. Et comme preuve de cet activisme de ces rebelles ougandais, la société civile de Béni territoire évoque la découverte des 11 corps vendredi dernier dans le village de Abialoté. Et c'est scellé aux environs de la localité de Maïmoya, secteur de Béni Baou. Une découverte qui a eu lieu alors que les opérations Rwenzori censées anéantir ces rebelles se déroulent dans la région. On écoute Omar Kavota, président de la coordination de la société civile du territoire de Béni, au téléphone de Rosalie Zawadi.
Nous estimons que comme les opérations d'aujourd'hui sont à la quatrième phase, la dernière phase, il importe que l'on fasse mieux parce qu'il ne faudrait pas qu'on considère que les parties ou les phases précédentes ont été faites sont déjà sécurisées effectivement. Donc, on note encore certaines forces de résistance des ADF Nalu qui sécurisent surtout les périphéries des localités conduites et nous pensons que les localités conduites doivent bénéficier d'une sécurisation efficace pour que les populations soient à l'abri des menaces des ADF Nalu. Nous pensons que dans tous les cas, l'autorité provinciale ainsi que l'autorité militaire doivent agir à commun pour renforcer les mesures de sécurisation des populations et venir recevoir des personnes qui ont enregistré des pertes de leurs membres de famille.
Rappelons que les corps retrouvés sont ceux des personnes, 15 au total, qui avaient été enlevés à Maïmoya entre le 27 janvier et le 5 février dernier. 10 corps ont déjà été retrouvés jusque-là. 3 personnes sont toujours portées disparues. Même situation dans la province orientale, le district du Haut-Touré est toujours en proie aux attaques des rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur LRA. D'après la société civile de Dongo qui l'affirme, de nombreux cas d'attaques et d'enlèvements sont signalés surtout dans ce territoire. Mohamed Boulay, vous êtes député national de l'opposition, rapporteur de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi général à la retraite. Vous êtes élu du territoire de Bouta en province orientale. Comment on peut expliquer cette résurgence de l'insécurité alors qu'il y a des opérations militaires en cours?
Merci beaucoup. Ce qu'il y a de commun entre ces trois mouvements, l'ERA, ADF et NALU, ce sont les mouvements militaires, des rebelles militaires ougandais. Ce sont des mouvements dissidents au pouvoir en place et depuis que le président actuel, Yoweri Museveni, a pris le pouvoir. Et je dois noter que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des combattants aguerris, donc des guerriers, qui ont toujours, pour en ce qui concerne l'ADF et NALU, qui ont toujours évolué sous les contreforts de Mont Rouenzori en s'étendant jusque vers Guéti, et d'autre part les NRA qui, depuis le 19 septembre 2005, à la suite des pressions, comme je l'avais noté dans, au cours des émissions avec la radio Elitia, s'est donc infiltré pour violer notre territoire et s'installer de manière formelle dans les territoires de Paradjé et Dungu. Et donc, les opérations qui sont menées par les éléments des forces armées, ce sont des opérations dites conventionnelles. Et notez que ces rebelles, ce sont des combattants.
Qu'est-ce qu'on entend par opérations conventionnelles?
C'est-à-dire, les troupes qui vont, ils sont organisés de manière à des procédés de combat tout à fait classiques, alors que les rebelles opèrent par petits groupes et ils choisissent leurs cibles pour pouvoir les neutraliser et surtout également faire de ces opérations-là une sorte de publicité et créer la terreur en ce qui concerne les populations civiles et faire déranger les autorités coutumières là-bas, les menaçant de mort, ce qui est le cas pour le territoire des Paradjé et Dungu, un peu partout. C'est surtout cela, exproprier les civils et faire un nombre d'otages. Parmi ces otages-là, il y a des jeunes, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont donc contraints à faire le service militaire, disons, à devenir combattants forcément. Au cas où ils n'acceptaient pas, ils s'opposaient, donc ils sont tués tout simplement.
Et donc, c'est parce qu'il y a ces opérations conventionnelles que ces groupes armés, on n'arrive pas à anéantir ces groupes armés?
Mais justement, c'est pas parce que ce sont des petits groupes. Alors que nous, les opérations pratiques, on travaille en paquet. Notez que vers les années 1956 et 85 et 86, en ce qui concerne cet espace-là de Rouenzori, sur les contreforts du mont Rouenzori, notamment le village Mutuanga et Lumé. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là pour mettre fin à ces aventures des NALU et ADF? Il y avait des unités commando. En ce moment-là, P. Général Boujamabé, que son âme repose en paix, était commandant de la 41e brigade commando, et ce sont les commandos qui étaient habitués à ce genre d'opérations, qui ont maîtrisé la situation là-bas. Et de l'autre côté aussi, à Nitouri, il y avait également un autre détachement commando, il y avait un bataillon commando déployé au niveau de Gombari, et un autre déployé au Montawa. Et donc, c'est cela qui a permis à ce qu'on puisse sécuriser nos frontières et sécuriser nos populations contre ces aventures de ces rebelles-là.
Alors, Mohamed Moulay, il y a cet auditeur de Kinshasa qui dit ceci, que pense que la résurgence de ces groupes armés à l'est de la RDC est la résultante du mauvais traitement de cette question par le gouvernement de la RDC qui met moins de moyens pour rendre efficaces les opérations militaires à l'est de la RDC.
Les moyens, ça dépend aussi. Les moyens peuvent être mis. Dans ce qui concerne, il faudrait des troupes tellement bien préparées et aguerries. Vous savez, les combats en jungle, ce n'est pas un combat facile. Grimper, par exemple, le mont Rouenzori, et ces gens, ces combattants-là sont habitués plusieurs années durant, ils sont prêts à tout, et ils se déplacent en petits groupes. Et ils savent où camper, quand est-ce qu'il faut quitter ce campement, ils attaquent et la nuit et le jour. Et donc, à ce moment-là, il faudrait préparer les unités, parce que monter jusque sur le contrefort de Mont Rouenzori, avec la température qu'il y a là-bas, l'atmosphère, les conditions atmosphériques, ce n'est pas n'importe quel militaire qui est moins préparé qui puisse réussir ces opérations-là. Donc, il faut vraiment maîtriser aussi les renseignements, parce que c'est important.
c'est important d'avoir les renseignements. On ne peut pas s'hasarder pour aller chercher les narous partout lorsqu'on n'a pas les renseignements. C'est pourquoi, avec des moyens ordinaires, on ne peut pas les obtenir. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, en ce qui concerne le gouvernement, déployer une diplomatie offensive pour obtenir des communautés internationales? Pourquoi pas, dans le cadre des organisations régionales et sous-régionales, obtenir les moyens, l'appui technique nécessaire? Nous avons vu ici, pendant les élections, il y avait des petits avions ici qui circulaient ici, ce sont des drones qui sont très performants en ce qui concerne la reconnaissance à basse haute altitude et sur des longs rayons pour permettre de disponibiliser ces renseignements-là aux troupes de façon à mener bien les opérations, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Merci, honorable Mohamed Boulé. Ernest Kadirov, vous êtes député national de la majorité, vous êtes aussi membre de la Commission des Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu du territoire de Beni au nord. Vous, comment vous vous expliquez cette situation, Ernest Kadirov?
En ce qui me concerne, en tant qu'élu de l'Est du Congo, je trouve que la gestion de la question sécuritaire a connu beaucoup de faiblesses. Je reconnais qu'il y a eu des sacrifices énormes consentis par le gouvernement et je rends hommage à tous les hommes qui ont péri sous l'uniforme dans ces opérations. Je rends hommage aux femmes violées, je rends hommage aux personnes dont les cases ont été brûlées, je rends hommage aux gens dont les récoltes ont été saccagées, mais revenons quand même à l'analyse de la situation. Cette situation de groupes armés, la plupart de ceux qui sèment les désordres là-bas, ce sont des groupes armés étrangers. L'ordre 26 Army ougandais, EDF Nalu ougandais, FDLR rwandais. Mais il y a aussi des groupes congolais. Moi, en analysant la situation, je me demande d'abord comment tous ces pays se sont retrouvés en train de déplacer le champ de bataille de leurs problèmes internes dans notre pays. Deuxièmement, je me demande comment des groupes étrangers peuvent survivre aussi longtemps sur notre territoire, toujours avoir de la nourriture, toujours avoir des munitions, toujours avoir des armes, et puis sans leur blesser, cela veut dire quoi? Elle avait dit qu'il y avait nécessairement des complicités solides. Et dans la région, et dans les deux capitales, dans le capital concerné, c'est-à-dire Kampala, Kigali et Kinshasa. Pourquoi j'ai dit ça? Je le dis parce que quand on attrape le FDLR ces derniers temps, il ne manque jamais une quantité de matières précieuses ou des viandes boucanées. C'est-à-dire qu'ils survivent de l'exploitation des matières premières et de la déforestation et de la destruction de notre sol. Dans les parcs nationaux, notamment en Province-Orientale et au Kivu. Et là, je rejoins l'auditeur de tout à l'heure qui a dit qu'il y a des faiblesses. Quelles sont ces faiblesses? Première faiblesse, l'ennemi c'est qui? L'ennemi, bien sûr, c'est celui qu'on voit sur le terrain, mais celui qui nourrit l'ennemi, celui qui l'arme. Parce que comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, les objets dans le territoire de Beni continuer à circuler. C'est quelqu'un qui leur donne les informations, quelqu'un qui leur donne la nourriture. Et pire encore, les neiges résistance amis, les objets finales et les FDLR, ils ont des complicités qui passent nécessairement par des tribus voisines ou des tribus transfrontalières. Les Hutu-Tutsi, les Nando, les Azando dans la province orientale. Cela facilite également le fait qu'ils puissent recruter localement. Le nombre de Congolais qui collaborent soit avec EDF Nalu, soit avec les Ondaré, soit encore avec les FDLR, et à l'UISAO. Comment se fait-il que tous ces réseaux ne sont pas du tout démantelés? Comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, on continue à découvrir chaque fois qu'on attrape les FDLR, on trouve toujours la cachetterie? Où va cette cachetterie? Qui l'achète? Parce que cette cachetterie, c'est de faire l'introduire s'il reste dans la bourse. Il y a donc des circuits qu'il faut démanteler. Quand on n'a pas démantelé cette complicité interne, on va être en train de multiplier des opérations et de renforcer tout simplement la sécurité de la zone. Il faudrait que les complices à Kinshasa, à Kigali, à Goma, à Kisangani, partout, soient identifiés. Et que les États et les multinationales qui profitent de ces matières soient également identifiés. On ne peut pas, par exemple, stopper l'exploitation artisanale des matières précieuses. Pour les petits gens, on apprend qu'il y a des grosses personnes dans le monde qui peuvent faire venir des avions pour les échanger, échanger des matières précieuses contre de l'or. C'est là, c'est de l'argent. Cela veut dire clairement que le circuit mafieux est là. Je fais revenir avec d'autres détails, mais je suis convaincu que nous souffrons à cause d'un réseau de complicité et je donnerai cette façon de traiter la population qui nous a élus. J'en profite aussi pour présenter mes condoléances aux familles des deux mes électeurs qui ont été fauchés après avoir été enlevés sauvagement par ces groupes. Et j'appelle le gouvernement à regarder un peu comment les autres pays réagissent quand quelqu'un est enlevé. C'est comme si, même quand il y a eu des femmes qui étaient violées, à expulser d'Angola, la réaction de notre gouvernement cause la légèreté et je les dénonce.
Ernesto Chialiro, merci. Je rappelle que vous êtes député national de la majorité. Professeur Bob Kabamba, vous venez de suivre les analyses des uns et des autres, donc de l'honorable Mohamed Boulé, qui pour lui, c'est parce que les opérations que l'on mène, ce sont des opérations conventionnelles. C'est pourquoi on n'arrive pas à anéantir ces groupes armés qui opèrent à l'est de la RDC. Pour l'honorable Chialiro, c'est à cause de la faiblesse de la question sécuritaire en RDC. Vous, comment vous pouvez expliquer cette situation, professeur Bob Kabamba?
Merci beaucoup, madame, et merci aussi aux honorables pour leurs commentaires. J'aimerais dire ceci avant de répondre précisément donc à votre question. Il faut bien se rendre compte que lorsque l'on parle de la région de l'Est, donc de la RDC, il y a en fait plusieurs enjeux qui font se mettre. Donc je m'explique, il y a des problématiques liées à des groupes locaux, des groupes armés locaux, qui sont essentiellement tous les groupes Maï-Maï, qui contrôlent généralement un petit morceau de territoire et qui fait de la terreur dans le territoire qu'ils contrôlent. À côté de ces groupes locaux, se superposent des groupes rebelles étrangers sur le même territoire et on assiste à une espèce d'entente entre les groupes locaux et les groupes étrangers. Et donc, de ce fait, on a difficile de pouvoir dire que la problématique qui concerne actuellement ne concerne que les groupes étrangers que vous avez cités, c'est-à-dire ADF Nalu, FDLR ou LRA. À chaque fois, lorsque vous regardez effectivement sur les différentes cartes, vous allez vous rendre compte qu'au niveau où les groupes rebelles sont actifs, il y a toujours d'autres groupes locaux congolais. Et donc, il y a, de ce fait, une espèce d'enchaînement entre ces différents groupes. Et ces différents groupes partagent, si on peut dire, la même revendication. Mais si vous lire les revendications de certains groupes Maï-Maï, lisez les revendications des autres groupes rebelles, vous allez voir qu'il y a une certaine similitude. Alors, en résumé, cela veut dire que ces groupes rebelles ne sont pas nécessairement des rebelles qui revendiquent pour pouvoir faire la démocratie, pour avoir plus de liberté, etc. Non, tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir, comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, c'est d'avoir accès aux ressources naturelles. Et de manière très claire, il ne s'agit pas des groupes rebelles, il s'agit beaucoup plus, on pourrait les qualifier, donc, des groupes mafieux et des groupes qui ne visent qu'une seule chose, qui est l'accès à des ressources naturelles pour pouvoir continuer progressivement à accumuler des ressources naturelles, voire à l'étranger, avoir plus de moyens, achat plus d'armes. Et on se retrouve dans cette logique-là. Or, tant qu'on n'arrivera pas à casser cette logique au niveau donc, des ressources, et au niveau des ressources naturelles, et au niveau des ressources financières, on aura du mal à casser cette dynamique de violence qu'il y a. Alors, précisément par rapport aux opérations militaires, effectivement, il s'agit des groupes qui opèrent en petits groupes à chaque fois. Je pense que toute armée organisée au monde doit faire que lorsqu'il y a effectivement un groupe rebelle qui travaille en méthode guérilla, l'armée en question doit aussi s'équiper en moyens pour lutter contre les guérillas. On ne peut pas dire que l'armée n'a pas les moyens de pouvoir lutter contre les guérillas. Dans toutes les armées du monde sont souvent occupées pour pouvoir avoir des moyens de lutter contre donc, les guérillas. Et vous allez vous rendre compte aussi, comme vous faites le lien, à chaque fois, lorsqu'il y a effectivement des opérations militaires contre ces groupes, vous allez avoir une augmentation de violations de droits de l'homme et des massacres à chaque fois. Et donc, on a à chaque fois l'impression que lorsque le gouvernement congolais exerce une pression sur ces groupes se vengent sur les populations civiles en commettant des actes ignobles contre la population civile, non seulement pour faire peur, mais aussi pour essayer de faire de la publicité et de mettre la pression sur le gouvernement congolais pour que le gouvernement congolais relâche la pression sur donc ces différents groupes. Autre chose aussi très particulière qu'il faut signaler, c'est que lorsque l'on parle effectivement de ces différents groupes qui opèrent en Guyane, il y a au sein de la même analyse qui avait été faite à l'époque, donc déjà dans les années 2005, 2006, 2007, où la MONUSCO, donc la MONUC avant, actuellement la MONUSCO, avait déjà compris effectivement qu'il y avait un problème au niveau de la mobilité de ces différents groupes. Et il y a eu une unité de couleur qui avait été mise en place à l'Est et qui avait comme objectif essentiel de pouvoir traquer ces différents groupes. Je rappelle encore une fois que la MONUSCO, elle a les moyens, c'est-à-dire qu'elle a les moyens militaires, des hélicoptères de combat, des moyens de transport, et a le mandat, elle peut, de manière très claire, pouvoir agir efficacement contre ces différents groupes. On sait qu'ils ont les moyens de l'hélicoptère, les moyens de reconnaissance, la MONUSCO les a, les armes, la MONUSCO les a, les militaires bien formés, la MONUSCO les a, puisqu'il y a des Népalais, des groupes de Népalais qui sont très efficaces dans le cadre de la lutte contre les genres des guerriers. Donc, de mon point de vue, il est important de pouvoir impliquer la MONUSCO dans la lutte par rapport à ces groupes étrangers qui sont la terreur dans l'est de la RDC. Par ailleurs, aussi, sur la question précise des moyens, il faut bien se rendre compte qu'il s'agit d'une chaîne claire qui a déjà été identifiée par plusieurs rapports qui existent. C'est-à-dire que vous avez les groupes rebelles qui sont actifs aussi dans les zones minières. Et de manière très claire, ces groupes se nourrissent des zones minières, produisent les mines, ont des axes de circulation de commercialisation qui sont très connus. On sait très bien que les mines, par exemple, qui quittent Walikale, on sait où ça va, où ça passe, et c'est acheté par qui, et c'est vendu dans tel pays, et de tel pays, c'est exporté dans un autre pays. Et tout ça existe, tout ça est connu, en mettant une certification, c'est-à-dire qu'on met une certification claire par rapport aux minerais qui sont produits au niveau du Congo, on peut arriver progressivement à couper le cercle vicieux qui est ressources naturelles, groupes rebelles, commercialisation et violation grave des droits de l'homme sur les populations civiles.
Le professeur Bob Kabamba, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État avait interdit toute exploitation dans la partie est du pays. Je suppose que l'exploitation artisanale n'était pas plus, mais comment on peut expliquer que ces groupes armés soient toujours actifs?
Donc, merci pour la pertinente question. C'est-à-dire que lorsque vous regardez de manière très claire, on a interdit la vente des minerais. Mais, chose grave, lorsque je regarde les statistiques depuis que le chef de l'État Kabila a ordonné la fin donc, de l'exploitation artisanale, au niveau de pays comme l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ils continuent quand même à exporter le coltan et les cassiterites qui viennent donc de l'est de la RDC. Et donc la mesure qui est prise, elle est certainement contournée par toute une série de gens, et il y a d'autres filières qui se sont développées pour contourner les mesures qui ont été prises. Il n'y a pas longtemps, on a dû, comme vous le savez, j'ai lu sur Radio Capi, sur le site de Radio Capi, qu'il y a eu un avion qui est arrivé à Goma avec comme objectif de pouvoir venir acheter donc, des minerais. Et de manière très claire, il apparaît qu'il y a des complicités très claires venant de certaines autorités politico-militaires dans l'Est de la RDC qui participent d'une certaine façon au contournement de cette mesure qui vise à mettre fin à l'exploitation illégale. Par ailleurs, aussi, cette mesure, il faut bien se rendre compte, cette mesure, elle a eu un effet, non pas au niveau de la production, mais au niveau du prix. Il ressort maintenant, depuis qu'on a pris cette mesure-là, les prix ont augmenté au lieu que les prix baissent. Et de cette façon, au niveau international, donc ceux qui continuent à contourner les mesures qui ont été prises, ils sont doublement gagnants, puisque au niveau international, les prix ont augmenté, et par ailleurs, ils ne payent même pas les taxes au niveau de la douane, puisqu'il s'agit des minerais qui sont exportés et également avec la complicité de certains.
Merci, professeur Bob Kabamba. Nous vous gardons encore dans cette émission au Sud Kivu. Toutes les activités sont restées paralysées depuis ce matin dans plusieurs localités du territoire de Mwenga, 140 km au sud-ouest de Bukavu. La société civile de Kamituga vient de déclencher 3 journées ville morte. C'est pour protester contre l'intensification des attaques contre la population et des véhicules sur la route Bukavu, Kamituga et Kamituga Mwenga. La société civile dénonce en même temps des cas d'enlèvement, meurtres, pris et pillages dans ce territoire. Ce mouvement, c'est donc pour interpeller les autorités congolaises sur cette situation. Delphi Namoto nous fait le point.
Selon des sources concordantes à Mwenga, les activités scolaires, économiques et champêtres et autres n'ont pas eu lieu comme d'habitude ce lundi matin à Kamituga, Mwenga Centre, Kitutu, Kakemenge et Lugusuan. Des barricades ont été érigées le long des routes pour paralyser tout mouvement vers le territoire. La société civile de Kamituga annonce que son action suscite à l'insécurité qui bat son plein sur la route nationale numéro 2, où plus de 9 véhicules ont été attaqués et pillés par des hommes en armes. Plusieurs cas d'enlèvement par des ex-délaires sont en enregistré. Dernier cas en date, 4 jeunes filles de la localité de Kalambo et Katungulu la semaine dernière. À cela s'ajoute des pillages de biens. Dans leur mémorandum, les activistes pointent du doigt la négligence des autorités face au corps de la population. Ils exigent l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur par leurs députés provinciaux. Contacté, le ministre concerné appelle la population à l'apaisement et indique que les services techniques sont déjà en alerte, notamment l'armée. Bukavu, Delphine Amoto, Radio Kati.
Merci Delphi pour ce reportage. Mohamed Boulay, vous êtes député national de l'opposition, vous êtes rapporteur de la commission défense et sécurité. C'est pas la première fois que la société civile, que ce soit de Dungu, Beni ou encore Kivu, se plaint par rapport à l'insécurité dans cette partie du pays. Au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous faites pour mettre fin à cette situation?
Au niveau de l'Assemblée nationale, comme nous sommes pendant les vacances parlementaires, chaque fois que nous partons en vacances parlementaires, parce qu'il nous est recommandé de séjourner de manière ininterrompue chacun dans sa circonscription électorale, nous ramenons chacun des rapports des vacances parlementaires. Ces rapports sont déposés au bureau de l'Assemblée nationale et une commission ad hoc analyse tout le fait et dégage les recommandations et résolutions adoptées par la plénière et envoyées au gouvernement. L'Assemblée nationale, son rôle, c'est celui-là. Et évidemment, des contacts aussi pour les uns et les autres avec certains membres du gouvernement pour échanger avec eux de manière pertinente les informations qu'ils ont. Donc, nous n'avons pas d'autres moyens à part ces moyens parlementaires pour pouvoir répondre et rapporter de manière fidèle ce que nous récoltons pendant les vacances parlementaires.
Et donc, quand vous revenez avec les informations que vous prenez à la source, vous faites des rapports que vous envoyez au gouvernement.
Tout à fait, parce que le gouvernement aussi qui gère au quotidien est censé, à notre humble avis, avoir l'état de la nation chaque jour. Parce que ça ne peut pas être autrement qu'un gouvernement n'ait pas journellement l'état de la nation. Où que se passe, et le problème qui se passe avec tous les rats, ce qui concerne les hôtels, les bases huilées, journellement, quelque part, un ministère responsable, chargé de l'intérieur ou de la défense, a ces éléments-là pour pouvoir les analyser et porter des solutions idoines.
Et quand le gouvernement ne réagit pas à vos rapports, vous faites quoi?
Mais écoutez, je pense, madame, vous avez suivi. Nous n'avons pas d'autres mécanismes. D'autres fois, nous faisons des interpellations, nous invitons pour que le gouvernement vienne s'expliquer sur la non-exécution des résolutions, des recommandations par l'UIPET, mais nous n'avons pas satisfaction. Je pense que vous le suivez, nous ne pouvons pas les forcer. Il y a des excuses qui sont trouvées ici et là, et nous, comme parlementaires, le seul moyen que nous avons, c'est ça.
Merci, honorable Boulay. On va prendre une autre réaction. Cette question nous vient de Kisangani, c'est l'honorable Odani Dunipola, qui dit ceci: la sécurité qui a élu domicile à l'est de la RDC, plus particulièrement dans le Haut-Ouélé, le Nord Kivu et le Sud Kivu, orchestrés par les rebelles venant des pays voisins, est devenue folle des commerces. Beaucoup d'hommes politiques, d'affaires et des militaires y trouvent leur compte. Honorable Mohamed Boulay.
Mais tout à fait, parce que il faudrait certainement dénoncer, parce que les populations qui vivent cela, au nombre de ces personnes, des jeunes pris en otage, ces gens-là constituent une main-d'œuvre donc forcée pour ces rebelles-là. Il est difficile de contrôler ces zones-là. Qu'est-ce qui se passe journellement? Vous savez, dans certaines de nos forêts ici, ce sont des forêts à 4 et 3 étages, donc vous ne pouvez pas voir ce qui se fait là-bas. Et lorsqu'il y a des attaques ici et là, croyez-moi, c'est une façon de distraire les militaires pour déplacer les zones de tension et dans l'entretien de la porosité de nos frontières, permettre à ces gens-là, des petits groupes, pour pouvoir passer, traverser la frontière et aller atteindre donc ce qui les attendent avec des millions de dollars américains pour acheter, comme le professeur l'a dit, ces matières premières. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils viennent chez nous au motif qu'ils sont des dissidents pour le pays, pour leur propre pays, qui viennent ici et se transformer en affairiste, et se transformer en criminel, et que même la communauté internationale, qui des fois, certaines puissances prennent des mesures pour dire nous allons y mettre fin, mais ils n'assurent pas les moyens nécessaires pour nous permettre de mettre réellement fin. Parce que le problème de LRA concerne et la République démocratique du Congo, et la République centrafricaine, et le Sud-Soudan, l'Ouganda, bien entendu, et également l'Ouganda en ce qui concerne la DF et Nalu et tout ça, et le Rwanda, le Burundi en ce qui concerne la FDR. Mais est-ce qu'il y a eu des opérations? Oui, ces opérations-là ont-ils atteint les objectifs? Parce que nous devons reconnaître que si on aurait atteint les objectifs, c'est-à-dire un succès quelconque, aujourd'hui, on ne parlerait plus d'NRA, ADF, NALU et consorts.
Merci, honorable Mohamed Boulé. Juste rappeler à nos auditeurs que nous parlons de la résurgence de l'insécurité à l'est de la RDC causée par les groupes armés étrangers LRA, FDLR et ADF NALU. Au moment où les opérations militaires sont en cours, le dernier cas est celui de la découverte des 11 corps sans vie dans le territoire de Béni au Nord Kivu. Que faire pour remédier à cette situation? C'est la deuxième partie de notre émission, honorable Kiaviro.
Merci, madame. Je voulais quand même, avant de trouver les remèdes, il faut bien identifier la cause. Et quand il y a quelque chose qui nous arrive, qui arrive à notre population, nous qui sommes dans les institutions, avant de voir ce que les Ougandais, les Rwandais, les Chinois, les Japonais auraient fait, nous devons d'abord faire ce que nous avons fait ou n'avons pas fait. Et à ce sujet, je veux attirer l'attention de toutes les institutions sur la manière dont on doit gérer une zone opérationnelle. Par exemple, on ne peut pas envoyer dans une zone opérationnelle des administratifs qui n'ont pas de bon terme avec la population. Savez-vous ce qui s'est passé il y a deux semaines? L'administrateur du territoire, après qu'il y ait beaucoup d'exactions de militaires indisciplinés sur la population de 8 ans, il y en a qui vont se plaindre à la radio et que fait l'administrateur? Il ferme la radio. En violation de tout ce qui peut y avoir comme principe de gestion des médias ou de respect des droits de la population. Voilà un esprit qui est toujours en cause jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps, les personnes qui.
Il a la preuve de tout ce que vous dites.
Non, il a fermé la radio. Je viens de là. Moi, je ne parle pas à partir de qui. Je viens de la radio. Il y a trop de retards qui fait tout ça. Et j'ai été scandalisé par le fait que le monsieur est toujours en pause. L'autre chose, pour que nous puissions résoudre, il faut bien identifier les erreurs que nous commettons d'abord. Comment pouvons-nous rester en place des réseaux bien connus de vente, d'achat de casse-périte dans les villes, en même temps que nous prétendons vouloir arrêter ces commerces. Autre chose, le comportement même de l'administration publique, de l'armée, est vraiment quelque chose qui a soulevé toujours des discussions et des protestations. Comment se fait-il qu'on peut envoyer des troupes? L'opération réseau de terre a commencé. Ce qui a scandalisé les gens de Béni, c'est qu'on a demandé aux gens de cotiser. Qui achètent pour acheter des vivres, par exemple, ou donner des camions, alors que nous supposons que cette opération est budgétisée. C'est la montre qu'on ne prend pas ces choses à la légère. Moi, je propose ceci. Pour que nous puissions terminer, nous devons avoir notre propre rapport. Je suis parvenu, après avoir interpellé le ministre de la Défense, et après que ce dernier ait avoué devant tous les députés qui ne connaissent pas la nationalité de certaines personnes qui portent notre uniforme, ni leur nom, ni leur intention, j'ai dit, mais c'est grave, il faut qu'on fasse une enquête. La première a entériné l'enquête. Mais nous attendons toujours de défendre sur le terrain. Nous n'avons pas de rapport. UN Right Watch a des rapports. Nous les réagissons, nous démentons. Il y a les Nations Unies qui ont des rapports. Ce qui se passe sur le terrain chez nous doit d'abord être maîtrisé par nous. Ce n'est pas Human Right
Watch. Donc, il faut faire un rapport, une enquête parlementaire.
Non. Nous devons maîtriser la situation sur le terrain. Vous ne pouvez pas dire que vous allez arrêter l'exploitation artisanale sans maîtriser tous les endroits où on exploite ces minerais. Je termine en disant ceci. Si nous continuons, si nous voulons vraiment terminer, nous devons premièrement couper la tête du serpent. La tête du serpent, ce sont les gens qui mangent, qui boivent le sang de mes électeurs. Ce sont ces mafieux heureux qui sont dans les circuits et qui sont bien connus. Si on ne s'attaque pas à ces gens-là, en tout cas, on est en train de ne pas rendre bon service. Et tout le temps que nous continuerons à vivre avec ces rapines, avec ces assassinats, avec ces viols. Nous sommes en train de demander, parfois il y a certains fois du Nord qui se demandent, c'est quoi l'indépendance? C'est quoi la démocratie?
Je ne vous arrache pas la parole. On va prendre d'abord cette réaction de Johannesburg. Vous allez réagir à cette préoccupation de l'auditeur honorable Caviron.
Athanase Sompo, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce bandit qui vient se promener chez nous librement, l'armée le laisse faire parce qu'il les attaque d'une façon conventionnelle. Si nous avions des unités, par exemple, qui peuvent contrer ces bandits, des unités dans des villages où des villageois s'organisent, parce qu'au moins d'un coup de fusil, tous les villageois sont au parc, ils fouillent. Et ces gens-là se sentent vraiment supérieurs. Mais quand ils racontent une certaine résistance dans le village, les gens sont organisés. J'espère que ces MRA réfléchiront deux fois avant d'attaquer des villages.
D'une manière classique, nous ne pouvons pas dire la tactique militaire, mais d'une manière classique, il s'est dit que le guerrier, celui qui fait la guerre non conventionnelle, doit se sentir dans la population comme un poisson dans l'eau. Ça, c'est Mao qui l'a dit. Et d'autres stratégies. L'erreur qu'on peut stigmatiser ici, pour aller dans le sens de l'intervenant de tout à l'heure, c'est le fait que vous envoyez sur un terrain aussi sensible des personnes insuffisamment dotées. Si par exemple quelqu'un est obligé d'utiliser les véhicules des gens qui trouvent sur place, qu'est-ce qui prouve que ces véhicules n'appartiennent pas à des personnes qui auraient indirectement des liens avec ces gens-là? Quel est le secret de l'opération quand vous utilisez tous les biens? Moi je pense qu'il y a un problème au niveau de la faiblesse logistique de nos opérations doit être stigmatisée ici clairement. Parce que cette faiblesse ne permet pas aux militaires de se battre dans les conditions qu'il faut. Notre armée est une des meilleures du monde. Dans ces conditions-là, je ne connais pas d'autres armées qui feraient les meilleures performances et je leur rends hommage. Cependant, les côtés doivent être améliorés. De deux, on ne peut pas s'amuser. On ne s'amuse pas avec ce qui s'appelle trahison. Quand quelqu'un a trahi tous les champs de bataille, a trahi en achetant des biens des ennemis, a trahi à collaborer avec l'ennemi, il faut le neutraliser, le garder là-bas, non seulement pour dégoûter la population, mais pour affaiblir votre nation.
Merci Ernest Kialiro, professeur Bob Kabamba. Nous parlons des solutions maintenant pour mettre fin à cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour remédier à cette situation que nous vivons dans la partie est du pays?
Il y a plusieurs choses hein, dont il faut relever par rapport à solutionner donc ce problème qui continue à faire souffrir les populations civiles. Je pense qu'il faut une conjugaison de plusieurs facteurs. D'abord les acteurs, bien sûr, le premier responsable qui est effectivement celui qui est chargé de la sécurité, c'est-à-dire la mise en œuvre de la sécurité, donc le gouvernement de manière très claire et doit assumer ses responsabilités, c'est-à-dire au niveau de l'armée, bien payer les militaires, assurer leur formation. Par ailleurs aussi, il faut des efforts aussi venant des autorités politiques, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, qui ont une mission, qui ont aussi la mission de contrôle de l'action gouvernementale. Et lorsque le gouvernement a failli, le Parlement a le droit, a la possibilité de pouvoir démettre ou même destituer un gouvernement si les objectifs qui se sont assignés ne sont pas remplis. Par ailleurs aussi, la société civile, il est important que la société civile continue à démontrer et continue à pouvoir être présente sur le terrain pour faire remonter au niveau de l'opinion ce qui se passe sur le terrain. Alors, en faisant remonter ce qui se passe sur le terrain, cela permet de pouvoir augmenter une pression sur aussi bien les politiques que sur les gouvernements. Par ailleurs aussi, il faut la question liée donc à l'armée qui a les moyens, donc elle peut aussi intervenir de manière très claire. Alors au niveau international, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau là où on achète, là où ceux qui achètent en Guinée, les minerais qui viennent de l'Est du Congo. Une pression claire vis-à-vis de l'acheteur de ces minerais est indispensable. Deuxième niveau, les pays qu'on appelle les pays de sortie occidentale. Il n'y a pas beaucoup de pays. Il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, qui sont des portes d'entrée et de sortie de ces différentes mineries. Et toute solution concernant les mines doivent appliquer, ces pays-là doivent absolument être appliqués. Et de la même façon, sur les questions liées donc aux questions militaires avec les différents groupes rebelles, il est important aussi que ces différents gouvernements sera aussi impliqué. Et au niveau de la population, je ne suis pas partisan de dire qu'il faut armer les civils, parce que normalement les civils, on arrive au même phénomène, on est prêt à arriver au même phénomène des Maïmaï dans la dynamique où on donne des armes et pour l'opération d'armes, qui aussi des mouvements qui vont gérer aussi la sécurité.
Alors,
il faut que les militaires, soient en mesure de pouvoir solutionner d'autres problèmes avec chacun dans son rôle, tel que c'est défini par les règles de fonctionnement de l'État de droit. Et aussi, enfin, madame, la chose la plus importante aussi, c'est la justice. Il faut que ceux qui commettent ces crimes-là soient jugés par le tribunal et condamnés, et que cela pourra servir d'exemple aux autres et qui continuent à vivre en toute impunité dans l'Est de l'air des siens.
Alors là, pour résumer un peu l'honorable Kabiro, on va prendre cette question qui nous vient de Michigan aux États-Unis pour vous, professeur Bob Kabamba.
Papi Kang du Michigan aux États-Unis d'Amérique. Je crois que cette situation émane de la défaillance de nos services de sécurité, ce qui permet aux rebelles des pays voisins de se retrancher chez nous et de trouver une vie facile chez nous, bien qu'ils ne peuvent pas combattre dans leur propre pays. Parce que pour le moment, je n'ai jamais appris que le FDLR a attaqué le Rwanda ou bien les groupes rebelles ougandais ont attaqué l'Ouganda. Ça fait longtemps que l'Ouganda et le Rwanda ont organisé leurs services de sécurité. Il nous faudra vraiment réorganiser l'armée, créer une armée qui est capable de défendre le peuple.
Professeur, brève réaction puisque nous tournons à la fin de l'émission.
Je partage l'avis donc de cet auditeur, sauf que les problèmes, effectivement, c'est aussi des services de sécurité ne sont pas formés. D'une manière très substantielle, il faut savoir que pour former une armée digne de ce nom, ça ne se fait pas en 6 mois, ça se fait pendant plusieurs années pour arriver à avoir une armée républicaine et qui aura comme tâche de pouvoir sécuriser les populations et garantir la souveraineté de l'État. Et cela suppose beaucoup de moyens et de l'engagement politique des autorités congolaises.
Merci, professeur. Honorable Mohamed Boule, on va prendre pour vous une question qui nous vient de Bukavu avant que vous ne puissiez nous donner vos propositions pour mettre fin à cette situation.
Robert Baume de Bukavu au Sud-Kivu. Cette résurgence d'insécurité à l'est de la RDC s'explique par le fait que l'ennemi connaît déjà bien toutes les tactiques et les stratégies qu'applique le FRDC pour le combattre. Aussi, les changements tactiques et stratégiques s'imposent-ils si l'on veut que toutes les opérations militaires contre le Nalu, les LRA, les FDLR et autres groupes armés réussissent?
Honorable Mohamed.
Merci beaucoup. Vous avez nettement raison, parce que les autres, ces groupes-là appliquent la guérilla. Ce que nous devons faire, c'est de préparer nos troupes pour appliquer la contre-guérilla. C'est ça, pas de manière classique pour pouvoir les déloger de là où ils sont. Le nœud du problème, en tout là, c'est les renseignements. Et nous devons reconnaître qu'il y a une certaine différence, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la communauté des renseignements. Le Conseil supérieur de la défense a la latitude de se faire assister par des experts. C'est pourquoi nous proposons qu'à ce stade-là, pour mieux cerner le problème de tous ces groupes armés étrangers et autres, il faudrait faire appel à un comité scientifique de défense et de sécurité où on va retrouver tous les experts possibles pour analyser de manière exacte et sans complaisance les contours de tout cela. Et faire aussi participer à la société civile, parce que somme toute, ces membres-là, ces victimes-là, qui fournissent les informations collectées ci et là, et mal analysées, parce que si c'est bien analysé, on n'arriverait pas à ce qui. De manière, parce que la formation aussi, la formation doit être continue en ce qui concerne les troupes pour les préparer aux techniques et donc de contre-guerre là, c'est de nouveau au commandement militaire de prendre les mesures nécessaires pour préparer des unités capable de mettre fin à cela.
Alors, je me demande en même temps de conclure parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, ma conclusion serait celle-ci. Parce que tant que nous n'avons pas la maîtrise des renseignements, nous nous arrivons à faire du n'importe quoi. Maintenant, comment allez-vous comprendre? Parce que j'ai aussi noté qu'au niveau du gouvernement, il y a une certaine, on banalise, et il y a même, ça marque même des commisérations par rapport à ces populations. Si nous prenons le cas des NRA, rien que le mois de janvier, la société civile a recensé net ça et 6 au mois de février.
Résumez-vous, on n'a plus beaucoup de temps.
Nous voulons à ce que le gouvernement prenne les choses au sérieux, à bras le corps, parce que c'est lui qui dispose de l'armée, et de tous les services. Donc, c'est au gouvernement de pouvoir mener donc la procédure, la stratégie nécessaire pour pouvoir mettre ça en place.
Merci, honorable Boulet. Honorable Caviro, en 30 secondes.
Premièrement, il faut savoir qu'on doit d'abord faire les coups de balai au service de sécurité militaire et civile qui manifestement sont infiltrés. Deuxièmement, notre justice doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas normal que les FDLR soient condamnés à l'extérieur quand ils ont tué nos concitoyens, alors que nous avons une justice à l'intérieur. Troisièmement, les questions de sécurité là c'est une question où on responsabilise les gens sûrs et on associe la population dans la société. La logistique de l'armée doit être renforcée. Les autres propositions tactiques du général qui est un officier de grande valeur, il ne veut pas y revenir, mais il faudrait qu'au niveau international, l'hypocrisie aussi cesse. On cesse de traiter avec les gens qui nous tuent.
Merci, honorable Kiaviro, professeur, en 15 secondes.
En quelques secondes, c'est essayer, tant que le gouvernement congolais n'a pas encore l'armée digne de ce nom, elle peut recourir à la MONUSCO pour l'aider à pouvoir mettre fin à la présence de ces groupes rebelles dans le pays.
Merci, professeur Bobo Kabamba. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Mathieu, assisté de Alain Rung et Samuel Kata, pour la supervision de Pélé Kipé Lamondo. Merci à Jean-Noël Mokondo, qui est à la technique. Au micro, Kélin Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radio-ouf.net. Bon suivi du programme sur la fréquence de la paix.